pas de public, mais des caméras. Le spectacle La Ronde, présenté par le danseur et chorégraphe Boris Charmatz aujourd'hui dans la nef du Grand Palais, sera capté, puis diffusé en mars sur France 5. Dernière danse avant fermeture, l'immense monument inauguré en 1900 va être profondément rénové, restauré, réouverture prévue en 2024. En attendant, il y aura ce palais éphémère construit sur le Champ de Mars, d'autres expositions, d'autres événements, et encore sans doute de l'imprévu, du reporté, du réinventé. Bonjour Chris Dercon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture ce matin. Président de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, comment abordez-vous ce week-end qui devait être initialement un grand week-end baptisé avant travaux avec ce spectacle La Ronde, mais aussi d'autres propositions, conférences, débats, performances? Êtes-vous frustré ou heureux tout de même de pouvoir sauver cette ronde de Boris Charmatz?
D'abord, je suis tout à fait content d'être ici avec vous parce que aussi mes danseurs ou les danseurs et Boris Charmatz et toutes les équipes du Grand Palais sont maintenant ici aussi parce qu'ils vont commencer dans quelques minutes les quatre boucles de la ronde de Boris de Schnitzler interprétées par Boris Charmatz. Donc, je ne suis pas du tout seul. Donc, ça veut dire que...
Ils sont à l'échauffement, là. Ça commence à 7h30,
vous
nous avez dit.
Donc, il y a du vie, il y a le Grand Palais est en train de vivre. Et c'est ça qu'il faut faire parce que Marie Collin, qui est la chef, la grande dame du Festival d'automne, avec qui on a coproduit le spectacle, cet événement de Boris Charmatz, elle a annoncé déjà il y a quelques mois, il faut maintenir l'ouverture sur le monde, il faut maintenir l'ouverture sur la culture. Eh bien, c'est exactement ça ce qu'on fait aujourd'hui, je suis tout à fait content que tout le monde peut voir ce spectacle le 12 mars, donc divisé sur la 5. Et ça, c'est quand même formidable parce que c'est un spectacle assez spécial. C'est un spectacle de 3 heures avec beaucoup de danseurs qui viennent de partout de l'Europe. Et c'est basé sur un livre, une pièce de théâtre de Arthur Schnitzler, le copain de Freud. Et c'est une pièce de théâtre qui parle aussi d'aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est une pièce de théâtre qui parle d'aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une chaîne de contamination. Contamination de l'amour, mais aussi contamination d'un vir. À l'époque, c'était le syphilis. Aujourd'hui, on vit aussi des enchaînements de contamination. Mais il faut quand même garder l'esprit, il faut quand même garder et préserver l'amour entre les gens. En plus, c'est une contamination, c'est une chaîne qui va au travers de toutes les couches sociales.
Alors justement, nous allons écouter Chris Dercon, Boris Charmatz, nous parler de ce spectacle, La Ronde, inspiré en effet du texte d'Arthur Schnitzler. Il était Boris Charmatz il y a quelques jours, le 7 janvier, l'invité de Marie Richeux sur France Culture, dans l'émission « Par les temps qui courent ».
Pour ce Grand Palais, on voulait faire une tempête. On voulait travailler une chorégraphie avec 400 personnes qui allaient transpirer, improviser, courir dans tous les sens. Et évidemment, c'est exactement ce qu'on ne peut pas faire. Je voulais qu'ils se portent, qu'ils se touchent. Et on a basculé vers ce projet de la ronde. C'est 10 scènes avec les couples, mais les couples, c'est donc premier couple, c'est AB, puis le deuxième couple, c'est BC, puis le troisième couple, c'est CD, c'est-à-dire que ça fait une chaîne humaine. Et c'est très beau parce que c'est une chaîne de transmission, et de transmission de virus. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on traverse toutes les couches sociales. On a l'impression que c'est une fermeture sur le couple, et peut-être qu'il y a une partie du texte qui a vieilli au sens où, c'est une certaine idée du théâtre de 1900, c'est des couples, c'est des figures comme ça, de la jeune fille, la prostituée, le soldat, le comte. Moi, j'ai invité une vingtaine d'artistes à fabriquer, donc chacun deux duos, parce qu'en fait, il y a le duo qui précède et le duo qui suit, donc c'est une sorte de passage de relais, comme ça, et qu'on interprète pendant une douzaine d'heures. C'est une sorte de grande boucle où on danse à l'infini, c'est une sorte de couple à l'infini, et j'avais l'impression que, à l'aune de la Covid, à l'aune du confinement, à l'aune des problèmes, il y avait une nécessité, en fait, d'essayer de fabriquer ces couples, mais ces couples qui sont en fait complètement ouverts sur le social, parce qu'en fait on se transmet les uns aux autres une forme de désir qui continue et puis qui se referme, parce que dans la ronde on revient au départ, le personnage du début revient, et nous on fait une sorte de boucle infinie comme ça pendant 12 heures.
Et voilà, on peut dire que vous êtes raccord en tout cas sur ce qui est
et il explique
projet.
Ça beaucoup mieux que moi. Ce qu'il a peut-être oublié de dire, c'est qu'on a quand même de la chance de pouvoir travailler avec des interprètes formidables. Hier, j'étais très ému quand j'ai vu la répétition générale. J'ai vu les acteurs, danseurs, les clowns de la compagnie de l'Oiseau-Mouche de Roubaix. Et c'est vraiment formidable quand on voit ces deux acteurs, ces deux danseurs qui font quelque chose ensemble et qui donnent le relais à Alex Ribaud, le danseur fantastique de l'Opéra de Paris. Eh bien, il y a de nouveau une danseuse de l'Opéra de Paris qui travaille avec une actrice flamande et ça continue. Mmh. Il y a aussi des danseurs de Congo, de Burkina Faso. Donc, c'est aussi une histoire de la danse. Et c'est ça qui est formidable avec Boris Charmat. C'est quelqu'un qui a inventé déjà il y a quelques années un musée virtuel, mm-hmm. un musée de la danse. Et il continue à explorer l'histoire de la danse pour le public d'aujourd'hui.
Alors vous allez avoir la chance, et on imagine que vous serez peu nombreux aujourd'hui dans la nef du Grand Palais à voir ce spectacle en direct, en vivant, sans écran. Nous le verrons donc à la télévision en mars. Simplement, voilà, là on entendait Boris Charmat avec Marie Richeux qui parle d'une grande ronde de 12 heures. Comment ça va se passer à la télévision ?
À la télévision, donc, vous allez voir une captation, mm-hmm. une captation d'à peu près 1h30, 2h. Il y a toute la soirée consacrée à Boris Charmat.
Il y aura un documentaire aussi.
Un documentaire aussi. Et donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que l'histoire de la danse, c'est aussi l'histoire de danse plus caméra. Depuis le début de la danse moderne, pensons à Loy Fuller, mais pensons aussi à Merce Cunningham et John Cage et les autres, il y a toujours des caméras. Et par exemple, dans la collection du Centre Pompidou, il y a toute une section, département danse plus caméra. Donc je suis tout à fait content qu'il y a quand même deux choses qui existent en parallèle. C'est ce spectacle qui va être vu par quelques professionnels. C'est ce qui est important, parce que danser en face d'un public, c'est autre chose que danser avec 5, 6, 7 caméras. Mm-hmm. Mais ce qui est très important, c'est aussi le symbolique, parce que ce spectacle de Boris Charmat, la ronde, c'est aussi un rite de passage. On va fermer bientôt le Grand Palais, ce lieu magique, pour aller au Champ de Mars, dans le Grand Palais éphémère, pour revenir au Grand Palais. Et c'est aussi un symbole, un rite de passage, parce que vous savez, le Grand Palais, c'était pas uniquement des salons d'industrie, il n'y avait pas uniquement des défilés de la mode, il n'y avait pas uniquement des expositions fantastiques. Dès le début, il y a aussi des fêtes, des spectacles de la vie moderne. Il y avait les Rockettes de Radio City Music Hall de New York. Il y avait Prince. Il y avait aussi la Comédie Française avec un spectacle formidable dans le Salon d'honneur Peer Gynt en 2011. Donc, la danse, la musique, le variété, le musical faisaient et fait partie de la vie de ce Grand Palais.
On va parler des travaux du Grand Palais qui arrivent effectivement. Pour terminer sur ce spectacle et cette soirée, il y aura donc effectivement un documentaire sur la conception de ce projet et donc les multiples rebondissements qu'il a connus. Vous avez, Chris Dercon, travaillé à New York, à Rotterdam, à Londres, à Berlin. Dans les portraits qui vous sont consacrés, on lit souvent que vous n'avez pas peur des défis, que vous êtes un homme de solution, de réinvention. Là, vous avez de quoi faire, on peut dire. Trouvez-vous... Cette question est étrange, mais trouvez-vous quelque chose de stimulant dans cette période si difficile que nous vivons ?
Pour moi, c'est difficile. Évidemment, c'est difficile parce que nous avons 850 salariés et il faut d'abord vraiment s'occuper de la vie pas uniquement sociale, mais aussi la vie privée, la vie familiale de salariés. Donc ça, c'est une première préoccupation. Et évidemment, il faut tirer des leçons. J'ai déjà pu tirer une leçon, c'est que par exemple, il faut, dans l'avenir, il faut faire beaucoup plus avec le digital, avec une architecture digitale. Mais comment ? Il faut le faire beaucoup mieux. Parce qu'au début, en mois de mars, on était tout à fait enthousiaste, on faisait, excusez-moi, beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de n'importe quoi. Eh bien, il faut investir là-dedans. Donc ça, c'est une leçon. Une deuxième leçon, c'est que tout va changer dans les musées, dans les expositions, mais peut-être même dans les salles de cinéma, les salles de théâtre. Pourquoi ? pas parce que on va rencontrer des nouvelles difficultés, mais des nouveaux défis. Peut-être il faut réimaginer l'architecture des musées, l'architecture du cinéma, l'architecture des salles de théâtre. Et là, il faut peut-être revenir à des expériments des années 20, quand Walter Gropius et Moholy Nagy au Bauhaus ont inventé ce théâtre total où il n'y a pas un quatrième mur, où il n'y a pas une scène devant, mais le public est sur la scène et on est entouré par des acteurs et des images. Peut-être là, il faut aussi trouver des nouvelles pistes, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles manières de faire des expositions. Donc ça, ce sont des défis. Et je pense que le spectacle de Boris Sharmat dans le Grand Palais, c'est déjà quand même une indication qu'il y a quelque chose en train de changer. Parce que vous savez, ce qui est formidable avec le Grand Palais éphémère, on peut peut-être aussi trouver des solutions pour des salles de cinéma, ou bien pour des salles de théâtre, parce que nous avons quand même un espace magnifique qui est grand, et on peut monter des spectacles de manière différente.
Vous pourriez accueillir du cinéma et du théâtre,
c'est ça que vous dites ? Mais même des projections de cinéma de notre manière. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs au Grand Palais éphémère. On va déjà essayer, parce que vous avez le Grand Palais éphémère, c'est quand même construit sur le Champ de Mars. Dans le Palais de l'électricité, il y avait cet écran géant en 1900, où les frères Lumière ont projeté le cinéma. C'était le cinéma expérimental comme un spectacle. On va continuer ça, on va chercher, on va rechercher. Et on continue à parler aussi avec les producteurs de théâtre, avec les gens de cinéma. Peut-être on peut inventer quelque chose de nouveau, des nouveaux formats. Mais le plus important, c'est l'aspect social. Parce que, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans un musée, ni dans un théâtre, ni dans une salle de cinéma.
Il a fallu ça pour s'en rendre compte ?
Peut-être, peut-être oui, peut-être oui. Et on se rend compte que on doit et on peut toujours poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait ici, ensemble, dans cette salle de théâtre, dans cette salle de cinéma, dans cette salle de musée ? Pourquoi on est là, ensemble, avec d'autres personnes, avec donc une collectivité ? Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui manque. Et là aussi, il y a la ronde de Boris Sharmat qui fait allusion à tout ça, à toutes ces problématiques.
Alors, vous aviez donc, on l'entend encore, d'autres projets, notamment a été annoncé il y a quelques jours, début janvier, la création du Grand Palais Immersif, une nouvelle filiale de l'ARMN Grand Palais. Qu'est-ce que c'est ?
Le Grand Palais Immersif, ce n'est pas du tout un computer ni une ligne téléphonique. Le Grand Palais Immersif, ça va être un bâtiment, ça va être un espace. Et on va d'abord créer ce Grand Palais Immersif en dehors les murs du Grand Palais éphémère, pour revenir au nouveau Grand Palais. Pourquoi immersif ? Pourquoi ce Grand Palais immersif ? C'est tout à fait clair. Il y a aussi des nouveaux formats à inventer pour démontrer, pour pouvoir montrer au public les interprétations des œuvres d'art d'une autre façon. Avec les technologies médias d'aujourd'hui.
La mais réalité aussi, virtuelle.
Exactement. Mais aussi d'aller s'approcher des œuvres d'une autre manière. Au lieu de raconter une histoire à côté d'un tableau, et en disant « moi je suis l'autorité, je vais vous dire ce que vous devez penser cette œuvre », peut-être, il faut créer des dialogues. Et ces dialogues ne sont pas uniquement mentaux, ils sont aussi physiques. Et c'est pour ça qu'on parle de immersion. Ceci, c'est quand même formidable, c'est qu'on a eu une année difficile, comme tous les musées. On avait seulement 40% de notre public normal. Mais l'exposition qui a eu le plus de succès cet automne à Paris, c'était notre exposition immersive Pompéi. Il y avait 200 000 personnes qui voulaient voir l'exposition. Ceci dit, il faut tester, il faut améliorer, il faut travailler sur ces expositions. On n'a pas encore trouvé le langage idéal, les technologies idéales. On n'est pas le seul à le faire. Mais il faut continuer. Et voilà, avec le Louvre, on va travailler dans un grand palais immersif.
Avec, du coup, un côté aussi un peu plus spectaculaire que vous assumez complètement ?
Oui, j'assume. Mais il y a des bons et des mauvais spectacles. Boris Sharmat, la ronde, c'est un spectacle, mais c'est très très bien. Et notre exposition El Greco, c'était un spectacle. Pourquoi c'était spectaculaire ? Parce que tout d'un coup, on pouvait voir 25, 30 tableaux d'El Greco ensemble. Le spectaculaire qu'on peut voir, par exemple, dans les shopping malls, ça c'est autre chose. il y a aussi des spectacles qu'on peut pas dire tout de suite qui sont à consommer. Mais le spectacle, c'est aussi un moyen de produire une forme d'engagement.
Concernant les travaux donc, du Grand Palais, ce ne sera finalement pas une réinvention, mais plutôt une restauration, une rénovation nécessaire, on le sait. Le projet donc, a changé, budget de 466 millions d'euros qu'il s'agit de tenir, et c'est ça la différence, semble-t-il, pas de dépassement possible. L'époque, c'est aussi celle des ambitions revues à la baisse, forcément, Chris Dercon ?
Tout à fait. Vous savez, nous ne sommes plus dans une époque, par exemple l'époque où on a eu le jury qui a décidé sur un projet de 2013, il y avait d'autres intérêts, il y avait d'autres lignes de pensée. Maintenant, on est quand même beaucoup plus loin, on parle d'une architecture post-Covid, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est très important, c'est que quand vous dites restauration, quand vous dites rénovation, moi je parle plutôt d'une reconstruction critique. On ne va pas revenir au degré zéro de ce bâtiment, à l'origine. Il n'y a pas d'original, des originaux dans l'architecture, même pas dans la Notre-Dame, vous savez. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de travailler sur un projet de reconstruction critique. On va pu démontrer le voyage dans le temps de ce grand palais. 1900, mais aussi l'insertion de Palais de la Découverte en 1937, et puis les changements sous l'influence, sous l'inspiration d'André Malraux dans les années 60, où il y avait des interventions formidables et radicales. Donc on va pouvoir faire une démonstration de l'architecture moderne, en fait, parce que le bâtiment de 1900, c'était une architecture moderne. Et aussi les interventions des années 60, 64, 66, étaient des interventions très importantes de l'architecture moderne. Donc ça c'est une chose, et puis il y a une deuxième chose, c'est que c'était nécessaire, pas uniquement parce qu'il faut mettre absolument le Grand Palais de nouveau aux normes,
normes de
demain,
de sécurité, déjà,
mais aussi parce qu'il y avait tellement, et il y a tellement des espaces cachés, mal aimés, où c'est même interdit d'y aller. On a perdu, le Grand Palais est devenu depuis le début de plus en plus petit. Et donc, on va regagner, on va revisiter ce fameux Grand Palais. Et c'est ça qui est formidable, parce que le Grand Palais était complètement morcelé. Et on va continuer à produire des spectacles dans une architecture spectaculaire qui est le Grand Palais, des danseurs, des artistes, des musiciens. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas le début, mais c'est la continuité de l'histoire. Et c'est le début peut-être d'un nouveau avenir pour le Grand Palais.
Alors justement, l'avenir, à propos de cette période, cette crise qui dure, vous disiez l'été dernier ici même que pour relancer la culture, il fallait écouter les artistes et les institutions, et pour cela aussi que les artistes et les institutions se parlent davantage. 6 mois plus tard, estimez-vous avoir avancé sur cette voie ?
Oui, je pense bien, absolument. Justement parce que le Grand Palais éphémère, c'est un endroit interdisciplinaire. Et notre slogan, depuis la création de la Réunion des musées nationaux, parce qu'il faut que je parle de la Réunion musées nationaux tiré Grand Palais, ça c'est une organisation. Et notre slogan, notre définition, c'est basé sur la coopération. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est de plus dire, écoute, ça c'est à moi, ça c'est mon bâtiment, c'est ma collection. Non, ce qu'on a appris aussi avec la crise, c'est collaborer, coopérer, montrer de la solidarité et surtout partager. Partager entre nous, mais aussi partager avec le public. Et cette idée de partage, ça c'est quand même le début de notre façon de créer et produire de la culture. Et je pense que c'est nécessaire à Paris. Et je pense que c'est nécessaire en France parce que tout d'un coup, on voit aussi le partage entre la capitale et les territoires. Peut-être que les territoires sont devenus aussi, dans le contexte de la crise, plus importants que cette grande ville de Paris. Et j'adore travailler dans le territoire. Évidemment, le Grand Palais va devenir aussi une plateforme pour les territoires.
La Réunion des musées nationaux, c'est une vingtaine de musées, surtout.
C'est une vingtaine de musées, et donc, quand vous dites qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, il y a les événements dans le Grand Palais éphémère, mais on va monter des expositions à Lille, à Marseille et ailleurs. Donc, on travaille un peu partout en France et on cherche toujours des nouveaux formes de coopération. Et c'est vrai que je pense qu'on est en train d'inventer des nouveaux formats.
Donc il y a quand même quelque chose de stimulant dans cette période, pour reprendre ma question de tout à l'heure. Merci Chris Dercotte dans les matins du samedi. Nous vous retrouvons dans 3 minutes sur France Culture puisqu'il est 7h30. Il est 7h33 et nous retrouvons notre invité culture, le président de la RMN Grand Palais, RMN comme réunion des musées nationaux, Chris Dercotte, la RMN Grand Palais qui est maître d'ouvrage de la grande exposition Napoléon, prévue du 14 avril au 19 septembre 2021 à la Grande Halle de la Villette à Paris, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. La billetterie, je crois, ouvre ce lundi. C'est toujours ce qui est prévu à cette heure-ci ?
On va annoncer tout cela demain soir.
Ah, voilà. Alors, on écoutera demain soir. Effectivement, on ne sait pas grand-chose pour l'instant de cette exposition.
Voilà.
Est-ce qu'on peut vous demander tout de même, Chris Dercotte, la façon dont vous allez, dont va traiter cette exposition, cette histoire, dans le dossier de presse provisoire, puisqu'effectivement, vous le dites, c'est dans les jours qui viennent qu'on en saura plus. Il est dit que cette exposition mettra en scène l'invraisemblable destin d'un personnage complexe qui fut à la fois admiré et controversé, victorieux et défait, héroïque et tragique, dont le romanesque fascine aujourd'hui encore nos contemporains. Elle rappellera ses legs politiques et culturels qui ont durablement marqué certains pays, au premier rang desquels la France, mais aussi ses erreurs notoires. Alors, on va peut-être pas entrer dans le détail de ce que sera cette exposition, car vous nous avez dit qu'il était trop tôt pour cela. Néanmoins, c'est l'occasion tout de même de parler de la manière dont l'histoire et la mémoire et les débats qu'elles peuvent susciter dans nos sociétés aujourd'hui, notamment dans la société française, sont traités par l'art, sont un sujet qui vous concerne aussi finalement dans votre domaine, Chris Dercotte. Et justement, quel regard portez-vous là-dessus ?
Vous faites ça très bien, mais c'est une question difficile pour un Belge. Vous savez, moi, j'ai agrandi à côté de Waterloo, et donc, Napoléon, c'est une figure difficile, c'est une figure fascinante aussi, et je suis tout à fait content qu'il y aura une exposition au Musée de l'Armée qui s'appelle, et qui va ouvrir aussi en avril, mois de mai, qui s'appelle « Napoléon encore ». Point d'interrogation. Napoléon encore, bon, là, il faut parler de la question de la communauté européenne, il faut peut-être parler aussi de la centralisation, décentralisation de la France, l'administration de la France, qui a peut-être aussi à voir avec les problématiques de vaccination. Mm-hmm. Il faut peut-être parler aussi de la façon que certains politiciens utilisent leur rhétorique, qui sont peut-être plutôt Bonaparte ou plutôt Napoléon. Donc, toutes des questions fascinantes, je suis sûr que toutes ces questions, et au-delà des questions de même de Black Lives Matter, ce sont toutes les questions qui vont être traitées dans l'exposition Napoléon, mais pas uniquement à la Villette, aussi au Musée de l'Armée. Et là, je suis tout à fait content que j'ai pu entendre que Netflix a décidé de contribuer à la restauration du fameux film de Abel Gance, Napoléon, ce qui était pour moi, à côté de Waterloo, la première expérience avec cette figure de Napoléon. Le figure de Napoléon a toujours attiré beaucoup d'intérêt des artistes, hein, aussi des écrivains. Et ce qui est pour moi fascinante, c'est que le visage de Napoléon ressemble à deux gouttes d'eau au visage de Heinrich von Kleist. Ils ont tous les deux un baby face.
Bon, et alors donc, tout de même, pour aller au-delà de Napoléon, ces questions, encore une fois, d'histoire, de mémoire, de comment elle pénètre l'art, de comment ce qu'on en pense aujourd'hui, les débats d'aujourd'hui rejaillissent finalement sur cette histoire de l'art aussi, et ça passe également par ce que certains appellent la cancel culture et qu'ils regrettent. Voilà, on imagine que pour vous, ce sont de vrais sujets aujourd'hui, de l'époque aussi, puisque vous vous inscrivez dans l'époque.
Les bonnes expositions demandent toujours des questions qui sont des questions d'aujourd'hui, absolument. Mmh. Et pas uniquement une exposition comme Napoléon, mais aussi le spectacle de Boris Sharmatz, La Ronde, un texte écrit en 1900 qui est devenu de plus en plus actuel. En plus, ce qui est fascinant quand même, c'est que aujourd'hui, on vit presque le 100e anniversaire de cette pièce. Vous savez ça? Parce que la pièce était donc montée dans une salle, Kleine Festspielhaus à Berlin, en 1920, sous l'instigation de Max Reinhardt, puis était jouée après le 23 décembre, le 1er février à Vienne, et puis basta. Puis, il n'y avait plus rien, parce que on accusait ce fameux Arthur Schnitzler d'être un pornographe juif.
Oui,
et Schnitzler a retiré la pièce, et puis la pièce est revenue par le biais du cinéma, Max Ophuls, mais aussi Roger Vadim. Mm-hmm. Il y avait dans le film de Max Ophuls, il y avait Simon Signoret. Dans le film de Roger Vadim, il y avait Jane Fonda. Il faut aller aujourd'hui acheter tout de suite les DVD de ces deux films. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, c'est devenu une pièce actuelle à cause de la crise actuelle. Donc, tous les chapitres dans nos cultures, toutes les créations culturelles qui sont importantes, parlent de hier, du présent, mais aussi de l'avenir, et posent toujours des questions de société. Parce que ce qui est important dans la culture, et ça pour moi est la définition d'une bonne exposition ou bien d'une œuvre d'art important, est-ce que c'est une véritable contribution? Est-ce que cette exposition, est-ce que cette pièce de théâtre est nécessaire? Et je pense que c'est ça qu'il faut se poser quand on fait notre comité de programmation. Ça sont les questions qu'on se pose. Est-ce que c'est une véritable contribution? Est-ce que cette exposition, cette activité est nécessaire?
Peut-être pouvez-vous nous parler justement de cette carte blanche qui a été donnée dans le cadre de la saison Africa 2020, donc qui continue jusqu'à l'été prochain. Carte blanche donnée à Sami Balogi, qui est un artiste d'origine congolaise et qui réalisait deux sculptures intitulées Johari Brass Band, qui sont visibles encore quelques jours puisque c'est jusqu'au 17 janvier, je crois, au niveau de l'entrée Clémenceau du Grand Palais. Ce sont deux gros instruments de musique, des cuivres, mais pas seulement, puisque le cuivre porte des marques de blessures, de scarifications. Parlez-nous de ces œuvres et de leur raison d'être.
Justement. Nous avons deux projets à l'extérieur du Grand Palais qui vont être visibles jusqu'au 24 février. Donc, ça vaut la peine. Aujourd'hui, ça va neiger. Ça vaut la peine de se promener dans la neige et
oui,
de voir.
L'autre, c'est l'attente.
C'est une pièce de consolation, en fait, de Diana Velázquez, une artiste colombienne. Et donc, il y a les deux instruments surdimensionnés de Sami Balogi qui parlent aussi d'aujourd'hui, parce que donc il parle de la période de colonisation et les orchestres de cuivre, les fanfares de cuivre sont inventés en fait par les coloniaux, c'est une forme d'import colonial, et donc aujourd'hui on vit la musique de fanfare en Inde, mais aussi en Amérique latine et en Afrique d'une tout à fait autre façon. Si vous voyez par exemple les concerts de formidables de Beyoncé, vous voyez des marching bands, et là aussi donc on voit une traduction de cette histoire des colonies, n'est-ce pas? Et donc Sami Balogi travaille avec toutes ces références, et ces références sont sur deux piédestals en face du Grand Palais, aux portes Clémenceau, aussi comme un avertissement. Un avertissement parce que il parle de quoi? Il parle des statues, le statut des monuments publics. Mmh. Et vous savez, dans le contexte de Black Lives Matter, mais aussi dans le contexte de MeToo, il y a beaucoup de discussions autour des monuments publics. Et s'il y a un pays où il y avait un vrai statumanie, c'est quand même la France. Donc on joue avec de nouveau avec le passé, avec le présent et l'avenir, et je suis tout à fait content de pouvoir recevoir Sami Balogi et ces deux sculptures sous forme des instruments musicaux surdimensionnés ici maintenant à Paris, dans le contexte de cette discussion de Black Lives Matter, mais aussi dans le contexte de la discussion autour de la représentation de l'autre. Et il y a pas mal de think tanks, il y a pas mal de gens qui discutent là-dessus, les noms des rues, les noms des places, et donc c'est une œuvre d'art qui joue avec l'actualité. Donc de nouveau, une activité, une action nécessaire et une véritable contribution qui sera visible jusqu'au 24 février.
D'accord, tout comme effectivement l'œuvre latente de la colombienne Diana Velázquez, qui sont des grandes toiles tendues sur les colonnes du Grand Palais. Chris Dercon, nous allons nous quitter avec votre choix musical. Vous nous avez dit Brass Band, vous nous avez envoyé quelques pochettes d'albums, ça n'est pas sans rapport avec ce dont nous venons de parler. C'est notre réalisateur Jean-Christophe Francis qui a affiné ce choix et nous écoutons donc The Rebirth Brass Band. Soul Weavers Brass Band, Chris Darkon, parlez-nous de cette musique en quelques mots.
Oui, j'ai toute une collection de musique brass band du monde entier, exactement parce qu'il s'agit de import-export, et c'est chaque colonie, excusez-moi le mot, c'est chaque pays, c'est chaque région qui a adapté la musique brass à sa façon. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de collectionner donc toutes ces expressions de colonialisme dans le monde entier. Et le brass qui est joué dans les universités américaines par des brass bands qui sont blacks, c'est fascinant, comme on a pu constater dans le concert de Beyoncé à Coachella. Mais il n'y a pas que Beyoncé à Coachella, il y a aussi des fanfares de brass ici à Paris, et j'aimerais bien continuer à travailler avec cette expression aussi dans l'avenir et dans le cadre du Grand Palais.
Merci beaucoup Chris Darkon d'être venu sur France Culture ce matin. Nous attendons donc le 12 mars la diffusion sur France 5 de ce spectacle de Boris Charmatz, La Ronde, capté aujourd'hui dans la nef du Grand Palais, spectacle dont France Culture est partenaire et qui a commencé au moment où nous parlons. C'est ça qui est formidable, et vous allez rejoindre les danseurs. Merci encore Chris Darkon et bonne journée.
Merci beaucoup.